Et bonjour, on se retrouve aujourd'hui sur O2 Radio pour un nouveau numéro de Bail de Jeunes. Aujourd'hui, on aura deux interviews. Un premier réalisé avec l'association Le Refuge, avec en invité Adrien Sessi, qui sont bénévoles. Le Refuge, c'est une association qui vient en aide à tous les jeunes qui sont dans la précarité, qui ont besoin d'aide au logement ou autre, mais surtout parce qu'ils sont dans leur situation de personnes LGBTQIA+. Qui subissent harcèlement et stigmatisation. Donc on a pu les interviewer et avoir quelques ressentis, quelques retours et quelques nouvelles de leur association. Et ensuite, on aura droit à un interview de Léna Lazare, porte-parole du Soulèvement de la Terre, qu'on a pu réaliser à Climax le 15 septembre, un festival organisé à Darwin. Donc je vais vous laisser tout de suite avec l'interview de Le Refuge avec Adrien et Anne-Cécile. Et bonjour, on se retrouve sur O2 Radio, plus précisément dans l'émission Bail de Jeunes, une émission pour les jeunes faite par des jeunes. Aujourd'hui, on retrouve l'association Le Refuge, des représentants plutôt de l'association Le Refuge. On est avec Anne-Cécile qui est bénévole. Bonjour Anne-Cécile.
Bonjour Nawel, merci de nous inviter à O2 Radio.
Ben, merci à vous. Et on est aussi avec Adrien qui est bénévole et délégué départemental.
Oui, bonjour à tous.
Je peux le rapprocher de... Ouais, voilà. Bonjour, vous venez nous parler de l'association Le Refuge, donc est-ce qu'il y en a un de vous deux qui peut me faire une petite présentation sommaire hein?
Oui, bien sûr. Donc la fondation Le Refuge est une fondation qui accueille et héberge des jeunes entre 18 et 25 ans avec un profil LGBT, voilà, et qui sont exclus par leur famille.
Ok. Bon, avant de passer à la suite, est-ce que vous pouvez me faire une petite présentation de vous, personnel, par rapport à votre rôle dans l'association, surtout ?
Donc, moi, je suis le délégué départemental pour la Gironde. Donc, en fait, je coordonne toute l'équipe de bénévoles et les actions qu'on peut mettre en place sur la Gironde.
Et pour toi, Anne-Cécile ?
Alors, moi, je suis bénévole au Refuge, voilà. Okay. Depuis peu.
Par rapport au Refuge et à vos actions... dans l'association, elle se présente un peu sur les actions faites, elles sont un peu sur trois axes, c'est ça. Est-ce que vous pouvez nous en parler, un peu de l'accompagnement et tout?
Alors oui, on travaille sur plusieurs axes. On va d'abord accueillir les jeunes. On a la chance d'avoir un salarié qui est travailleur social et du coup qui va établir un projet avec le jeune. Et donc notre rôle, c'est de venir en complément de ces actions du travailleur social.
Ok, parce que oui, c'est vrai que vous proposez plusieurs services comme du coup un accompagnement pour les personnes qui viennent vous contacter, un hébergement si besoin, c'est ça?
Oui, tout à fait.
Hébergement donc pour les jeunes en situation précaire ou en urgence en fait, dans l'urgence du logement.
Alors le jeune appelle la ligne d'écoute du Refuge, qui est une ligne qui est nationale, ouverte 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et il tombe donc sur un travailleur social qui va évaluer sa situation. Et selon sa situation, soit on va lui proposer un hébergement s'il est dans une situation insécure et d'urgence, soit il pourra juste bénéficier de ce qu'on appelle un accueil de jour, c'est-à-dire un accompagnement en journée par un travailleur social.
Donc un refuge pour tout le monde. Est-ce que il y a des conditions à cette aide ou pas?
Non, il faut avoir entre 18 et 25 ans.
Ok. Est-ce que j'oublie quelque chose en fait sur vos actions en général de l'association par rapport aux jeunes qui sont dans ce besoin, dans l'aide?
Ben, on va avoir un pôle accompagnement donc qui est assuré par les bénévoles et qui consiste en fait à venir en renfort des actions du travailleur social, c'est-à-dire aider les jeunes dans des démarches chercher un stage ou faire des CV ou tous les rendez-vous qu'il peut avoir à Pôle emploi ou ailleurs.
On peut passer un peu à l'actualité que vous avez prochainement. Est-ce que vous pouvez nous en parler par rapport à... Il y aura une diffusion d'organiser ça ?
Oui, alors on va avoir le 6 novembre une avant-première, l'avant-première du film L'Arche de Noé, qui va se passer à l'Utopia à 20h30. Et donc l'histoire du film, c'est un peu l'histoire du refuge. Voilà, le refuge a 20 ans cette année. Donc il y a un film qui a été fait, pas forcément pour le refuge, mais qui a été, on va dire, qui a eu une influence sur la façon dont se passe le refuge, dont il a été créé. Et donc l'actrice principale, c'est Valérie Lemercier. Et on va voir en fait toutes les actions. Enfin, c'est comme une aventure en fait des jeunes. Donc on va y avoir différents types de personnes, de types de profils que les bénévoles rencontrent. Voilà, ça reste LGBT.
Et... Ok. Ouais. Et est-ce qu'il y aura d'autres actualités prévues? Est-ce que déjà par rapport à la diffusion, après il y aura de la discussion de prévu?
Oui, il y a un petit débat, question-réponse, juste après la projection du film avec l'équipe du tournage, donc avec le réalisateur. Donc ça, c'est super sympa parce qu'on apprend beaucoup de choses en fait. Et puis on peut poser toutes les questions qu'on veut, donc c'est un temps d'échange. C'est sympa aussi de rencontrer les gens qui nous soutiennent et qui sont intéressés de près ou de loin par cette cause. Donc on fera aussi un appel aux dons ce soir-là, parce qu'en fait, comme toute association, on est une fondation depuis 3 ans. Et oui, l'appel aux dons, c'est une des bases. Hein. Sans dons, on peut rien faire. Donc on a des grands mécènes comme LVMH ou Renault, BNP Paribas, des grandes entreprises, mais aussi des entreprises locales peuvent aussi donner. Donc ça, c'est hyper important. Et puis, tout un chacun aussi, n'importe quel citoyen peut aussi donner pour nous aider. Quoi. Le slogan, c'est « aider à nous aider ». C'est ça qui est important. Quoi.
Et je rappelle que, hormis ça, on cherche toujours des bénévoles qui ont du temps et qui ont envie de s'intégrer à notre équipe pour aider tous ces jeunes.
Oui, c'est un point où je voulais en venir, c'était par rapport à vous aider, du coup, on peut vous aider à travers les dons, c'est ça, à travers le bénévolat, et vous contacter aussi, vous suivre, vous avez des réseaux?
On a un compte Insta, effectivement, on a un compte Facebook, et pour toutes les personnes qui veulent nous rejoindre, je donne l'adresse qui est bordeaux@le-refuge.org.
Donc pour continuer dans ça, dans le soutien, niveau bénévole, cette année, comment ça se passe pour vous joindre? Est-ce qu'il faut certains requis, prérequis?
Non, tout le monde peut intégrer notre équipe. La seule chose à avoir, c'est l'envie et la motivation et être dynamique. Voilà.
Oui, pour avoir une petite idée de ce que font les bénévoles dans votre association, c'est quoi à peu près les missions qu'ils sont amenés à rencontrer en tant que nouveaux bénévoles ou non?
Ils accompagnent donc les jeunes, comme je le disais. Et on peut s'occuper aussi des logements, c'est-à-dire faire du petit bricolage si besoin. On a aussi un pôle compta, on a un pôle levée de fonds, un pôle
événement,
ouais. communication. Voilà, donc en fait, c'est assez vaste et on peut vraiment y trouver son compte.
Pour revenir un peu sur l'actualité, s'il y en a, est-ce qu'il y a d'autres événements auxquels où vous serez présent ou que vous organisez aussi?
Alors là, pour le moment, c'est pas prévu, mais par contre, on pourra revenir ici et puis vous donner une petite actu.
Oui, voilà. Ouais. Chaque année, on participe à la Pride avec le Gyrophare, qui nous aide. Enfin, c'est eux qui organisent pour Bordeaux, mais nous, on fait aussi partie de leur équipe. Et puis pour l'instant, ouais, c'est le 6 novembre, grande date importante pour nous.
Je ne sais pas trop si j'oublie quelque chose ou pas.
Voudrais juste rappeler la ligne d'écoute pour les jeunes qui en ont besoin. C'est le 06 31 59 69 50. Voilà. Et qui n'hésite pas.
On la relayera de toute façon, parce qu'en fait, la ligne d'écoute, c'est un peu une de vos actions principales d'aide, en fait, c'est ça?
Oui, tout à fait. Ça va être les premiers écoutants pour les jeunes qui sont dans des difficultés. Et donc ils peuvent appeler pour n'importe quel prétexte.
Ouais. Est-ce que j'oublie quelque chose sur vos actions, sur l'actu? Je ne sais pas.
Non, juste rappeler l'adresse mail, donc bordeaux@le-refuge.org, et on se fera un plaisir de répondre à toutes les personnes qui souhaitent nous rencontrer.
Et puis pour Instagram, c'est le refuge Nouvelle-Aquitaine. Et sinon, il y a le refuge officiel, mais c'est national. Voilà, parce qu'il y a 22 délégations en France. Il y en a aussi à La Réunion et en Guyane. Mais on fonctionne de façon quand même locale. C'est comme ça qu'on est au plus proche des jeunes qui viennent nous solliciter. Donc aujourd'hui, on a 5 jeunes, c'est ça
Oui.
Voilà. Et on peut pousser jusqu'à 7.
Avec une volonté de doubler la capacité d'accueil d'ici 2024.
Dans des refuges spécifiques, du coup ?
Non, toujours sur Bordeaux.
Ok. Ouais. Je sais pas si
ce sont des appartements, en fait, où ils sont 2 ou 3 en colocation, c'est ça. Et voilà, dès qu'il y a une place qui se libère, on peut intégrer un nouveau jeune dans le besoin.
Ok, ouais, c'était un peu là où je voulais en venir par rapport à l'aide. Parce que du coup, ça tourne, en fait, vous en aidez, il y en a qui sortent du processus.
C'est ça. Le but, c'est qu'ils soient autonomes. En fait, c'est de les rendre autonomes, de les aiguiller. Et donc, en fait, ils viennent pour 3 mois, c'est ça, renouvelable 6 mois. Enfin, 3 mois encore, donc qui fait un total de 6 mois. Et pendant ces 6 mois-là, bah, on les aide à devenir autonomes, à trouver un travail, à s'intégrer dans la société du mieux possible, quoi.
Oui, parce que, bon, excusez-moi, parce que pour l'interview, c'est un peu décousu, mais par rapport à un aide, après, une fois qu'ils sont sortis de l'hébergement ou de votre aide, ça se passe comment ? Est-ce qu'il y a un suivi après ? C'est juste rester en contact avec vous, peut-être ?
Alors, il n'y a pas de suivi, ça, c'est une volonté du jeune. Soit il garde contact avec nous, il nous donne des nouvelles régulièrement, mais il n'y a pas d'obligation. Voilà. On part effectivement sur des contrats avec le jeune de 3 mois renouvelables selon la situation du jeune. Après, le refuge, avant tout, c'est un tremplin pour le jeune. Voilà. C'est-à-dire qu'on accueille les jeunes qui ont vécu des situations traumatisantes et de rejet. Il leur faut du temps déjà pour s'en remettre et après pour les accompagner dans leur projet selon leurs souhaits, leur envie.
Oui, parce que vous adaptez beaucoup à la situation personnelle, en fait, de la personne qui a besoin d'aide.
Oui, totalement.
Les situations, elles sont diverses, il n'y a pas de profil type qui viennent, c'est
non.
Vraiment...
Non.
Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose.
Oui, j'ai aussi des choses à dire par rapport à... quand on est bénévole, on bénéficie de formations, notamment sur la sensibilisation aux personnes transgenres. Donc, c'est hyper intéressant. Et puis, il y a aussi autre chose, c'est qu'on a aussi une mission de sensibilisation dans les écoles pour lutter contre les LGBT-phobies, transphobies. Voilà, plus on éduque, en gros, les jeunes, on espère que moins ils subiront de phobie de ce genre. Donc, voilà.
Surtout qu'on note depuis quelque temps sur la ligne d'écoute vraiment une augmentation des appels de jeunes qui sont victimes justement de LGBT-phobie et du coup de harcèlement en milieu scolaire. Donc c'est effectivement une action qui est très importante.
Ouais, donc tout ce travail de sensibilisation, en fait, il est hyper important et le plus tôt possible, du coup, fait par certains bénévoles qui... Ça peut être une émission, du coup, des bénévoles qui souhaiteraient vous joindre, en fait.
Oui, tout à fait. Oui, ça peut être l'une des missions des bénévoles, effectivement. Oui.
Okay. On va dans les collèges, c'est ça, et lycées de la région ?
Collèges, tout type d'établissements scolaires, à partir du moment où ils en font la demande.
Ok, donc c'est sur demande de l'établissement, vous pouvez intervenir.
Oui, tout à fait.
Juste, je voudrais rappeler un chiffre qui est assez alarmant, c'est qu'il y a 25% des jeunes LGBT qui ont déjà fait une tentative de suicide. Donc, quand on entend ce chiffre, c'est pourquoi on va sensibiliser dans les écoles pour que ça qui diminue au maximum, quoi, que ça n'existe plus. Quoi. On est en 2023 et on est encore avec des chiffres alarmants comme ça.
Et c'est très important qu'on soit là aussi pour ce profil de jeunes désespérés parce que... ça leur montre qu'il y a du lien humain encore et que leur différence et leur situation n'est pas une source d'exclusion. Voilà, que leur situation n'est que passagère.
Oui, c'est vrai que le travail de sensibilisation, il passe déjà par le fait de faire comprendre aux jeunes que ce n'est pas de sa faute la situation, mais aussi faire comprendre Exactement. Aux autres que il est comme ça et c'est tout. Quoi.
Oui, c'est un processus d'acceptation, mais qui peut être long. Selon le profil du jeune, ça peut être, c'est pas forcément évident de s'accepter en tant que jeune LGBT.
Oui, donc tout le travail de sensibilisation est hyper important dans votre ligne d'attaque de tout ça. En fait, ça s'ancre totalement dans l'aide à l'hébergement qu'il y a juste après. En fait, c'est les aider à n'importe quel stade de leur vie de pouvoir être présents si nécessité, en fait. C'est un peu ça votre mot.
Oui, et puis leur montrer qu'ils ne sont pas seuls. Mm-hmm. Voilà. Que malgré les pires situations, il y aura toujours des gens. Voilà. Ça sera des inconnus dans un premier temps, mais qu'il y aura toujours des personnes bienveillantes pour les aider et les accompagner à rebondir.
Oui, ils sont accompagnés par aussi des psychologues, des gens du milieu social aussi. Ils sont pris en charge vraiment par des professionnels aussi. Il y a des bénévoles, mais aussi des professionnels, et c'est ça qui est important.
Oui, ils ne seront pas seuls, ce n'est pas juste des démarches informatiques que vous faites pour eux. En fait, voilà. C'est tout un accompagnement avec d'autres gens, complet, à tout point, quoi.
Et puis il y a aussi une aide humaine, comme tu disais Adrien, on essaye de refaire un peu un cocon, on organise des événements où on est avec eux, ça peut passer par de la cuisine, des jeux, des blind tests, des soirées
organisées. Des visites culturelles ou des matchs de foot ou de sport, parce qu'il y a de la sensibilisation à faire aussi dans le milieu sportif, on l'a vu malheureusement dans certains matchs de foot dernièrement.
Ouais, ça manque pas.
Voilà. Donc il y a encore du boulot.
C'est vrai que dans tous les secteurs, il y a nécessité en fait à sensibiliser le grand public, à tout le monde, parce que en fait il y a beaucoup de choses qui sont inconnues, beaucoup de choses qui sont pas comprises, pas écoutées. Donc oui, c'est vrai que la sensibilisation et la communication sur ça, ça reste très important, quoi, pour créer un environnement sain pour tout le monde, quoi.
Oui, et épanouissant où tout le monde peut s'y trouver, tout le monde peut être accepté comme il est et d'où il vient, et voilà. D'où le fait qu'on a besoin encore de bénévoles.
Donc on peut toujours vous contacter, on peut rappeler en vrai le mail si vous voulez.
Oui, bordeaux@le-refuge.org.
Et la ligne d'écoute, non ?
Et la ligne d'écoute.
Allez-y, allez-y. Hein.
C'est le 06 31 59 69 50.
Oui, parce que c'est hyper important que le numéro de la ligne d'écoute circule, donc faut bien le dire plusieurs fois. Merci.
Merci à toi.
Merci à toi, Noël.
Merci, je ne sais pas s'il y a un dernier mot à rajouter, mais je pense qu'on a fait un peu le tour de...
Oui, c'est bon, venez nombreux à l'Utopia le 6 novembre à 20h30.
On se retrouve aujourd'hui à Darwin pour le festival Climax. On va interviewer Léna Lazare, porte-parole des soulèvements de la Terre. Donc. Bonjour Léna, comment ça va ?
Bonjour, ça va très bien.
Tu viens nous parler aujourd'hui, tu as fait des conférences ici, tu vas en faire une autre demain. Déjà, c'est quoi ton ressenti par rapport à ici pour l'instant, par rapport à ce que tu as vu ?
C'est vrai que je viens d'arriver, donc c'est un peu difficile. Mais en tout cas, là, c'était assez intéressant de faire une table ronde avec Pauline Boyer, donc, qui est une activiste d'Alternativa, et aussi avec William Bourdon, donc, qui est un avocat qui s'est beaucoup impliqué dans la défense donc, des activistes, notamment, qui pratiquent la désobéissance civile, ce qui est aussi mon cas. Donc c'était une table ronde assez riche, et ça nous a permis d'avoir un discours ancré sur les actions coup de poing. On a peut-être pu beaucoup parler cette année, notamment les actions liées aux méga-bassines à Sainte-Soline. C'est toujours précieux ces moments où on peut... En fait, où on peut échanger avec un certain nombre de personnes qui étaient peut-être un peu loin de tout ça et malheureusement qui ont peut-être eu du mal à savoir quoi en penser avec le discours du gouvernement qui dit qu'on est des éco-terroristes, etc. etc. Et du coup, voilà, c'était un chouette moment pour peut-être reparler de tout ça, de pourquoi on mène ces actions-là et aussi de parler de la répression malheureusement qui s'abat sur les activistes et de comment on peut quand même contrer tout ça collectivement et que rien n'est perdu, bien sûr, c'était pas juste la déprime totale.
Ouais, on y était à la conférence et c'était super intéressant en vrai. C'était bien d'avoir le point de vue de militants comme toi qui agis légalement et autres. Aussi des militants qui se cantonnent au point de vue légal et aussi un point de vue purement légal avec un avocat. Est-ce que est-ce que ça vous arrive souvent de faire ce genre de conférence ? Est-ce que vous préférez ou juste parler de votre voix, ça vous arrange mieux ?
Mais là, c'est vrai que c'était intéressant d'avoir différents profils. On peut avoir des discussions hyper intéressantes entre différents activistes. Enfin, surtout que voilà, on fait partie quand même de la même grande famille avec Pauline, mais en fait, on fait pas forcément les mêmes choix stratégiques. On n'est pas dans des organisations qui ont forcément le même consensus d'action. Et donc déjà, c'était intéressant, mais c'est vrai que d'avoir le recul d'un avocat qui, en plus, voilà, travaille quand même depuis longtemps sur ces questions, c'était enrichissant même pour nous. Et c'est vrai que ça fait aussi du bien quand on va à une table ronde où on apprend soi-même des choses. C'est, en tout cas, ça m'a appris des choses de savoir quel était son point de vue, en fait, sur la situation. En tant que militant, les avocats, on parle avec eux principalement quand on doit préparer notre défense. C'est pas les moments qui sont les plus propices à l'échange sur l'évolution de nos droits ou sur quelles devraient être les stratégies juridiques qu'on devrait porter. Et c'est vrai que c'est un milieu qui est aussi assez complexe, quoi. Donc ouais, c'était hyper enrichissant, et c'est trop bien quand ça permet aussi de créer des rencontres, en fait, les tables rondes, que les liens vont potentiellement se prolonger après l'événement, quoi.
Je viens de m'en rendre compte, mais je me suis un peu emporté. On a parlé directement de ce qui se passait ici, mais je t'ai même pas laissé te présenter toi, ni même l'association ou les groupes que tu représentes. Donc je vais te laisser en parler toi-même.
Je m'appelle Léna, j'ai 25 ans. Je fais partie d'un mouvement qui s'appelle les Soulèvements de la Terre, qui est une grande coalition d'organisations, de collectifs qui agit contre l'agro-industrie et l'accaparement des terres. Ouais, on est un mouvement qui s'est créé il y a 2 ans, qui s'est notamment mobilisé contre les méga-bassines. Donc c'est des énormes réservoirs d'eau plastifiés qui sont destinés à une minorité d'agriculteurs, et malheureusement ceux avec les pratiques les plus industrielles, alors qu'il faut totalement bifurquer dans le monde agricole, et que ce qui se passe, c'est, en fait, c'est ni bon pour le vivant, ni bon pour les agriculteurs, en fait, qui ont des conditions de travail de plus en plus dégradées. Et du coup, oui, je suis investie sur cette question du partage de l'eau et des méga-bassines au sein des Soulèvements de la Terre. Et c'est de ça aussi dont je vais en parler un peu ici.
Une autre question, tu en as parlé un peu pendant la table ronde. J'ai eu l'occasion de t'écouter dans d'autres interviews où tu en parlais. Mais on entend souvent parler de l'écologie qui ne peut pas se dissocier, en fait, de la lutte anticapitaliste. Et est-ce que tu peux nous expliquer en quoi, en fait, c'est indissociable, et de quoi la convergence de ces luttes-là est importante, en fait ?
Pour moi, une écologie qui ne serait pas anticapitaliste, ce n'est pas de l'écologie, parce qu'en effet, si on est... En fait, actuellement, on parle d'anthropocène, on dit qu'on est passé dans une nouvelle ère géologique à cause de l'activité humaine, mais pas n'importe quelle activité humaine, en fait, c'est à cause du capitalisme fossile. Le modèle économique actuellement qui détruit le vivant, qui est responsable des inégalités sociales qu'on peut constater, c'est lui qui, en fait, qui est à l'origine du dérèglement climatique. Et donc, si on veut vraiment mener une lutte écologique conséquente, on est obligé de s'attaquer à l'économie, et on ne peut plus continuer, en fait, de penser qu'on peut produire... qu'on peut produire indéfiniment, qu'il peut y avoir une croissance infinie dans un monde de ressources finies. Et c'est pour ça que l'écologie, fondamentalement, est anticapitaliste.
Bah ouais, complètement. On le voit beaucoup. Ça se traduit par beaucoup d'actions que vous faites, vous comme d'autres groupes, d'aller s'attaquer au siège de grandes entreprises comme Total ou autres. J'aimerais savoir, un peu par curiosité, est-ce que c'est quoi l'événement qui t'a le plus marqué récemment dans les actions que t'as fait, qui est le plus important pour toi ?
Malheureusement, l'événement qui m'a le plus marqué récemment, je pense que c'est la manifestation de Sainte-Soline, où il y a eu de nombreux blessés et une répression policière terrifiante. Mais pour parler de quelque chose de plus positif et qui nous donne... pour parler de quelque chose de plus positif et qui montre aussi que, justement, on a un pouvoir d'action, en fait, sur ces entreprises écocidaires qui parfois peuvent paraître beaucoup trop grandes pour qu'on s'y attaque réellement. Il y a une manifestation contre les méga-bassines qui a eu lieu il y a 1 an et demi, contre la méga-bassine illégale de Cranchaban. C'est intéressant, voilà, de rappeler aussi que parfois on gagne des combats juridiques, mais que pourtant des infrastructures polluantes qui ont été condamnées continuent de fonctionner. Et cette méga-bassine illégale de Cranchaban, on est arrivé à 3000 en manifestation et on l'a débâchée. Et du coup, on a rendu l'eau qui était stockée dedans à la rivière, et donc à l'ensemble des agriculteurs et de la population vivant aux alentours. Et cette action, elle me semble hyper intéressante, parce que déjà, on se rend compte que collectivement, on peut mener ce genre d'action. Donc vraiment, voilà, avoir un impact sur les projets écocidaires contre lesquels on se bat. C'est un geste qui est facile à reproduire. On en parle souvent vis-à-vis des méga-bassines, mais en fait, les méga-bassines sont hyper vulnérables, en fait. Elles ont des kilomètres de tuyaux, elles sont juste constituées d'une bâche plastique, Oui, c'est vraiment voilà, une grosse piscine avec une bonne épaisseur de bâche plastique, mais avec un cutter, en fait, on peut facilement, démonter une méga bassine. Et en fait, il y a plein de gestes qui sont quand même accessibles à un grand nombre, qui nous permettent, lorsque, en tant qu'habitant d'un territoire, on s'est massivement opposé à la construction d'un projet, de faire en sorte que ça nous permet de mettre en place la société juste et écologique en laquelle on croit, notamment en fait en faisant en sorte que ces infrastructures ne peuvent plus exister. J'en ai un peu parlé pendant la conférence, qui est assez désolant, c'est que la plupart des projets contre lesquels on se bat dans le cadre des soulèvements de la Terre, c'est des projets qui ont été contestés par une majorité de personnes localement, et que souvent, voilà, il y a des enquêtes publiques qui se font avant qu'un projet démarre, et souvent il y a 80% ou 90% d'avis négatifs à cette enquête, et pourtant les projets passent. Et que c'est vrai qu'on souvent on dit que les écolos sont des ayatollahs verts, des khmers verts, qui sont antidémocratiques, mais en fait là ce qui se passe dans ce mouvement des luttes locales dans lequel s'inscrivent les soulèvements, je trouve ça hyper inspirant aussi, parce que justement ça repose les bases d'une démocratie directe et d'une réelle démocratie, en fait, avec des habitants qui disent mais en fait ça suffit, le système fait qu'on n'a plus aucune prise en fait sur même sur les lieux qu'on habite au quotidien, sur lesquels on vit, et nous on va changer ça, et notamment en faisant des actions coup de poing.
Tu as employé le mot écocide. Est-ce que tu peux un peu nous en parler, parce que ça c'est pas clair pour beaucoup.
Je préfère utiliser le terme écocide que polluant parfois, parce que voilà, ça montre qu'il y a une action destructrice, meurtrière du vivant. Le terme polluant, je trouve des fois il est un peu flou, tandis que écocide, voilà, il y a vraiment une notion de crime derrière. Et ça me paraît un adjectif pertinent à utiliser quand on parle de certaines infrastructures. Après, je ne l'emploie pas du tout justement avec la notion juridique derrière. Donc voilà, c'est un terme qui peut avoir, enfin, qui est en lien avec un combat juridique, mais que là, j'utilise dans un sens plus courant.
Au niveau du vocabulaire de tout ça, écocide, c'est un mot, je trouve, qui est hyper important à employer et à diffuser aux autres et à décrire. Mais aussi, en fait, il y a tout un lexique qu'utilisent certains médias dans tout ça, d'éco-terrorisme pour faire peur aux autres. Vous en avez parlé un peu dans la conférence précédemment. C'est important un peu de décrire ce genre de termes. Est-ce que vous, ça vous importe beaucoup d'avoir des prises médiatiques comme ça, des mots qui vous appartiennent, mais aussi en fait, de juste vous opposer aux médias traditionnels, en fait. Pour vous, c'est un point à travailler.
C'est sûr que la bataille du langage, elle est hyper importante, et c'est notamment pour ça qu'au sein des soulèvements de la Terre, on parle d'action de désarmement quand on démantèle les infrastructures. On aurait pu utiliser le terme de sabotage, qui je pense est un terme dont on peut, avec lequel on peut revendiquer une filiation. On parle de sabotage parce que les ouvriers mettaient des sabots dans les machines pendant les grèves pour stopper ces machines. Et c'est un geste qui est très beau. C'est vrai que là, nous, on avait envie d'un terme qui montre justement que face à nous, on a un système économique qui détruit le vivant au quotidien, et que si on ne l'arrête pas, on va se retrouver sur une planète qui va être littéralement inhabitable pour une grande partie de la population. Donc que dans la notion de désarmement, il y a la notion d'armes, et on pense vraiment que oui, ces mots forts de crime, avec le terme d'écocide, d'armes avec la notion de désarmement, permettent de se rendre compte dans quelle situation sont les militants écologistes. En fait, nous, on réagit à une violence qui est systémique, qui est énorme, qui est beaucoup plus grande que nous. Et du coup, ça permet de relativiser la violence de nos gestes à nous.
Est-ce que tu aurais des conseils, des endroits où se rapprocher pour les gens qui ne sont pas familiers au militantisme et qui aimeraient s'en rapprocher?
Vis-à-vis des endroits, malheureusement, je suis pas bordelaise, mais il y a un comité local des soulèvements de la Terre, et je sais qu'il y a des personnes très chouettes dedans. Après, il y a malheureusement des luttes locales contre les projets polluants et imposés partout. Dernièrement, à Bordeaux, il y avait la lutte contre l'aéroport de jet privé de Saint-Émilion, mais il y a eu une victoire là-bas. Et je sais qu'il y a un comité maintenant contre la LGV Bordeaux-Toulouse, qu'il y a aussi des personnes qui se battent contre un surf park près de Pessac. Là, je voyais au stand des associations ici qu'il y a une usine à saumon, une ferme usine à saumon qui est en train de, pareil, qui est en projet en Gironde. Donc en fait, il y a plein de projets destructeurs près de chez nous. Et je pense que c'est une bonne porte d'entrée aussi pour militer. Et aussi pour voir que justement, on peut avoir une action concrète et efficace. Parce que c'est vrai que des fois, lorsqu'on se met, je sais pas, à tracter sur les dérèglements climatiques ou à faire certaines actions qui sont peut-être un peu plus éloignées de notre quotidien, même si on est tous impactés par le dérèglement climatique, on peut se dire, mince, en fait, j'ai l'impression de contribuer à quelque chose qui est très grand, mais de pas du tout voir en fait où ça mène. Tandis que les projets polluants et imposés près de chez soi, on sait très bien qu'on peut les stopper, on sait très bien qu'assez rapidement, en fait, une petite partie des habitants d'une commune qui se mobilise, ça peut avoir un impact énorme. La preuve en est, enfin là, le collectif contre l'aérodrome de Saint-Émilion a gagné. Et du coup, c'est vrai que moi, je crois beaucoup en cette force collective-là, et qui permet en plus de rencontrer dans sa commune des personnes avec qui on va peut-être pouvoir mener d'autres projets, peut-être des projets d'alternatives à la hauteur des enjeux ou d'installations paysannes, de lieux collectifs pour recréer du commun dans sa ville. Enfin, il y a plein de choses qui sont possibles, quoi.